Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'économiste, chef d'entreprise, ancien banquier d'affaires Raphaël Rossello. Vous venez de publier demain La fin de l'insouciance chez Mareuil Édition. Bonjour Raphaël Rossello.
Oui, bonjour.
On peut dire que depuis quelques années, dans vos interventions médiatiques, comme des petits cailloux, vous expliquez, vous semez un peu en expliquant ce qui va se passer. Il y a toujours de l'imprévisible. L'imprévisible, c'est par exemple la guerre en Ukraine. L'imprévisible, ça peut être un confinement. L'imprévisible, ça peut être la crise de l'énergie. Mais on voit bien qu'on est dans un monde de plus en plus incertain et c'est ce le thème de votre nouveau livre qui s'appelle « La fin de l'insouciance », où vous lancez clairement un appel à nos hommes politiques qui font semblant de nous faire croire que le monde de demain ressemblera un peu au monde d'aujourd'hui, ce qui signifie que c'est par la croissance économique que l'on va pouvoir rembourser la dette, alors que pour vous, vous semblez dire que c'est trop tard.
Écoutez, c'est un résumé que je n'aurais pas fait. Il est parfait, il est absolument parfait. En fait, effectivement, ayant eu cette chance merveilleuse dans ma vie professionnelle d'être à mi-chemin entre le monde de la plus grande précarité et le monde de la plus grande richesse, j'ai cet avantage sur beaucoup de mes camarades de l'univers, on va dire, de l'argent, de la finance, de l'investissement, etc. J'ai l'avantage d'avoir un pied des deux côtés et de comprendre les erreurs de diagnostic qui se répètent. En fait, cette erreur de diagnostic, je peux, au fur et à mesure, effectivement, de mes interventions, j'essaie d'affiner ma propre compréhension et ma propre sidération devant ce que je dénonce. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années, et pour moi, c'est autour de 1988. Pourquoi autour de 1988? Parce que c'était, pour vous, le boursier, vous vous en souvenez, octobre, 19 octobre 1987 a été, en termes de journée de krach, la plus forte de l'histoire des bourses, puisque les bourses occidentales avaient perdu près du quart de leur capitalisation en 24 heures, et que, voyant le risque de tsunami qui pouvait se provoquer, bon, qui a heureusement été limité dans ce cas-là, dans cette crise-là, fait que progressivement, les États, les gouvernements, les leaders d'opinion, la doxa, je dirais, mondialisée, bienheureuse, a laissé filer deux paramètres. Le premier, c'est le déficit. Et je dis toujours, messieurs, mesdames, vous vous accoutumez de l'idée que la croissance est à crédit sans jamais vous poser la question que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu recours à ce crédit, à cette dette. Et là, la réponse, elle est quand même violente. C'est que des pays comme la France, mais aussi l'Angleterre, les États-Unis, auraient été en récession depuis 40 ans. Et ça, pour la pensée que j'ai moi-même incarnée, hein, puisque j'ai été en même temps que j'étais un spectateur de ce qui se passait, j'ai été également un contributeur, on était effectivement dans cette euphorie, je dirais, post-Fukuyama, post-effondrement du mur de Berlin. Ça y est, il n'y avait plus le risque socialiste ou communiste. Donc, le libéralisme, qui est devenu le néolibéralisme, c'était, comme le disait Madame Thatcher, la seule solution. Bien. OK. Et pour poursuivre ce rêve, qui avait été une réalité pendant 200 ans, donc je dirais qu'au début, on était légitime à vouloir le poursuivre, mais au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, entendre un ministre dire que c'est la croissance qui paiera, qui remboursera la dette. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous dire une chose pareille, puisque la croissance n'est que le produit d'un accroissement de la dette. Donc vous ne pouvez pas...
La croissance, Oui, mais pas seulement. La croissance aurait pu être un autre produit d'accroissement du travail et de la consommation.
Absolument. Oui, mais justement, alors en
vous
même
dites
temps,
que depuis 30-40 ans, c'est la dette qui a financé la croissance.
Oui.
D'accord. Vous savez, j'ai une théorie. Elle ne regarde que moi. Votre avis m'importe, évidemment. Est-ce que c'est la fin de la société du plaisir ? Dès lors qu'on est rentré dans le principe de précaution, finalement, dans tous nos actes de la vie quotidienne, la société du plaisir a été abandonnée il y a 30-40 ans, il n'y a plus de croissance. Parce qu'en réalité, la croissance hors dette, quand vous regardez ces films avec Lino Ventura de Claude Lelouch des années 50, 60, 70, c'était le plaisir. Donc la consommation, et ça amène la croissance hors dette.
Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que en fait, réellement, parce que en fait, je conclus à des idées extrêmement proches. Mais en réalité, ce n'est pas le problème du plaisir ou de la joie ou du bonheur. Le problème, c'est de l'obtenir comme étant un dû. Je fais partie de la génération, et tous mes camarades étaient pareils. Bien sûr qu'on recherchait le plaisir. Mais on savait que pour y accéder, il y avait une phase d'effort, de renoncement, d'ingratitude, de se fermer la tête. Enfin, je veux dire, il y avait cette étape. Et je pense, mais là, je dirais qu'on est très rare à avoir cette idée, c'est que je pense qu'effectivement, la croissance a disparu, la croissance économique a disparu parce que les gains de productivité qui étaient à son origine ont également disparu, ce qui paraît insensé quand on a de la technologie à portée de main, mais c'est parce que dans l'association entre l'homme et la machine qui ont permis pendant 200 ans de créer tout ce qui nous entoure, toutes les infrastructures, les lycées, les opéras, etc., c'est que, en fait, les motivations individuelles ont changé et ne sont plus en alignement avec cette foutue croissance. Alors, comme ça ne suffisait pas, on a dérégulé tout ce que l'on pouvait déréguler, et y compris en termes de création monétaire, en se disant, et ça a été affiché par tous les grands banquiers internationaux, c'est en inondant de liquidités les consommateurs et les investisseurs, etc., on va créer un effet richesse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, si ce n'est que le mot richesse est ambigu. En fait, il y a deux mots qui sont proches mais bien distincts. Il y a les richesses que la société avait générées, que sont les biens et services utiles à notre épanouissement, à notre sécurité, à notre santé, à notre plaisir. D'accord ? Ça, c'est les richesses que j'appellerais socialement utiles, ou plutôt collectivement utiles. Et un autre effet totalement distinct qui est l'effet patrimoine. Et quand on regarde la courbe des patrimoines, il faut savoir que pendant le siècle qui a précédé 1988, le patrimoine augmentait à peu près au rythme de la production de ces richesses socialement utiles, d'accord ? Avec des variations liées à des guerres, etc. Mais en tendance séculaire, c'était synchrone. À partir de 1988, et c'est ce que vos lecteurs sont en train de vivre, c'est que on a eu le sentiment, avec la hausse de l'immobilier, avec la hausse des marchés financiers, et en dépit des bulles de 2002, de 2007, celle dans laquelle nous sommes encore, on a cru que par cette abondance monétaire, on arriverait à entretenir un mécanisme qui pourrait tirer le maximum des populations. Et là, on a commis une erreur. Là, j'ai commis une erreur en tant qu'acteur du système. C'est que effectivement, l'effet de ruissellement n'a pas du tout fonctionné. Et donc, on a créé une hypertrophie du monde abstrait des valorisations en laissant sur le carreau, ça s'appelle les Trumpistes, ça s'appelle les Brexiteurs, ça s'appelle les Gilets jaunes, ça s'appelle en fait tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la croissance de l'effet patrimoine, qui aujourd'hui donne du plaisir et de la satisfaction, on va dire, allez, à la grosse, au quart des populations mondiales, et en tout cas occidentales. Mais ça veut dire qu'il y en a trois quarts ou au moins la moitié qui sont dans un état de souffrance que nous n'avions pas connu à l'origine. C'est l'exemple que j'ai donné dans quelques... C'est un couple d'ouvriers, de secrétaires en France dans les années 80, avec deux enfants, vivaient intramuros dans Paris, honorablement. Le même couple, 40 ans plus tard, un ne peut pas vivre dans Paris, mais à 60 ou 100 kilomètres. Deux, il n'arrive plus à s'en sortir, sauf à faire des arbitrages. Je me nourris moins bien parce qu'il faut que je paye Netflix ou Bouygues ou Orange. Enfin bref, il y a des arbitrages, mais il y a surtout le fait que la dignité qu'ils avaient de l'effort n'est plus récompensée. Et mon souci, il est là.
Oui,
et
mais est-ce que, quand vous catégorisez cette population de gilets jaunes, de trumpistes, etc., comme si c'était quelque chose d'établi et que vous êtes hors du cercle, que d'autres personnes sont hors du cercle, ouais. Est-ce que finalement, la grande crainte, c'est que ceux qui se croient à l'abri du cercle seront sans doute les gilets jaunes de demain et les trumpistes de demain ? Ceux qui, pour l'instant, aujourd'hui, se croient privilégiés.
Oui, ils le sont encore.
Et ça tombe. Oui, mais ça tombe.
Oui, oui. Mais en fait, étant donné que vous avez la responsabilité d'informer vos lecteurs, en fait, quel est le choix ? Parce que je considère qu'on a toujours le choix. Alors, quel est-il ? Il est de se dire, comme l'orchestre du Titanic, je continue de danser, de jouer, de boire, parce qu'il n'est pas encore démontré que le bateau va couler. Bon, très bien. Et moi, je dis ouais, mais le seul problème, c'est que toutes nos déviances, historiquement, n'étaient pas partagées par le plus grand nombre de pays. Aujourd'hui, c'est un phénomène planétaire. Donc, mon inquiétude, c'est que arrêtons de rêver sur une Chine qui est exactement dans la même déviance que celle que j'ai décrite, c'est-à-dire que si vous enlevez le déficit que le FMI appelle le déficit augmenté, dans lequel vous mettez celle des régions, des provinces, des entreprises publiques, etc., le déficit public de la Chine est peut-être situé depuis une dizaine d'années entre 10 et 12%, alors qu'ils avaient une croissance que de 7%. En réalité, si vous enleviez ce que les architectes appellent cette jambe de force pour tenir la toiture, ça serait casser la gueule. Or, la Chine sait qu'il y a, allez, aujourd'hui sur 1,4 milliard, vous en avez 400 millions qui sont un peu tirés par ça, mais vous en avez encore 1 milliard qui sont dans les vallées profondes et qui sont pas en bordure de la mer, et qui, elles, si elles venaient à perdre les quelques yuan de survie qu'elles ont, historiquement, depuis 5000 ans, ils descendent avec des fourches dans les vallées. Hein. Donc, en fait, quel est le risque ? Donc, premier choix, on laisse faire. Mais moi, je dis simplement, je ne vois plus comment on peut laisser faire. Mais admettons.
C'est la tactique actuelle, pour l'instant.
C'est la tactique actuelle. C'est la tactique de M. Macron et de ses camarades du G20, etc. Bon. Simplement parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter la réalité, c'est tout. Hein. C'est un problème de peur, c'est pas un problème d'intelligence, c'est simplement de réaliser que ce n'est plus le modèle d'avant. Bon, adaptons-nous. Hein. L'intelligence humaine, c'est l'adaptation. Alors, comment on s'adapte ? Et c'est là où je trouve que vous avez un franc-parler qui mérite d'être porté, c'est que vos lecteurs en lisant ça, qu'est-ce qu'on leur demande? C'est d'être, qu'est-ce qu'on ne sait pas leur demande, qu'est-ce qu'on leur dit? Soyez en alerte, soyez un peu plus fourmis que cigales, hein, bon, parce que le modèle dans lequel, c'est-à-dire je m'adresse à ceux qui ont entre 30 et 60 ans, hein, qui sont encore dans la vie active, effectivement, le modèle de leurs parents et grands-parents, lui, n'existe plus. C'est pas qu'il est en train de mourir, il est mort il y a 30 ans, il est mort il y a 20 ans. Donc, on a créé un décor, j'appelle ça la grande illusion, par référence justement au film de Jean Renoir, mais c'est la grande illusion version 2.0. Et cette grande illusion, eh ben, elle va mécaniquement se révéler au plus grand nombre. Toujours la même règle, soit vous avez eu le temps de vous préparer à ça et vous allez le vivre mal, bien sûr, on va tous le vivre mal, mais vous allez pouvoir vous y adapter, soit vous êtes dans le déni, option numéro 1, en pensant ce que vous disiez, que vous êtes un protégé. Et quand vous allez vous retrouver avec votre gamin qui est parti à Londres faire fortune et qui va se retrouver avec sa petite boîte en carton et ses affaires parce qu'il aura été viré, sinédié, etc., dans toutes les sphères de création de cette boursouflure des patrimoines, et ben là, vous allez avoir des gens, et j'en aurai autour de moi, hein, bien sûr, qui vont dire « Ah, oh, mais c'est pas juste, c'est dégueulasse, etc., on nous l'a pas dit. » Si, si, bien sûr. Parce que je suis pas le seul, hein, vous avez vu. Mais je suis probablement, c'est ce qui fait un petit peu mon originalité, c'est que dans mon univers, mon discours n'est pas accepté. Parce qu'il n'est pas acceptable. Et je leur dis non.
Il est compris pas, et il n'est pas accepté publiquement.
Vous croyez mais qu'il est compris accept...
Oui, d'abord il est compris. Il n'est pas accepté publiquement. On fait semblant de ne pas comprendre. Mais dans la sphère intime, croyez-moi, ils ont tous compris. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une époque où les gens disent ce qu'ils ne pensent pas et ne disent pas ce qu'ils pensent.
J'aime bien, absolument. J'aime bien. Oui, c'est vrai, absolument. Ouais. Mais enfin voilà, donc en fait, c'est simplement de se dire, moi ce que je redoute, certes il va y avoir une baisse, c'est écrit, je devrais pas dire ça parce que je dois pas faire de conseil patrimonial, mais je veux dire que nous allions vers une récession et que cette récession, qui va d'ailleurs, ça va être passionnant à voir, c'est qu'en fait cette récession elle vient de quoi? Elle va venir du fait que la valorisation des actifs qui sont dans les fonds de pension, etc., descend. Le consommateur anglo-saxon qui consomme quand il n'a pas besoin d'épargne, parce que son épargne est très valorisée, va être obligé de réduire sa consommation. Donc en fait, c'est l'effet patrimoine inverse de ce que l'on avait voulu créer à l'époque des Mario Draghi et Co, et des Greenspan et des Bernanke et autres, c'est que c'est parce qu'il va y avoir une érosion de la valeur des patrimoines liée à la hausse des taux, enfin bon, tout ce que nous savons, que on va rentrer en récession, que nous n'avons plus, nous, ce sont les gouvernants, nous n'avons plus les moyens de tirer sur de la dette, parce que bah, quand on tirait sur de la dette il y a 4, 5, 10 ans, elle coûtait que dalle. Là, elle commence à coûter. Et si vous regardez les 3 000 milliards de la dette française, pour ne parler que de la dette publique, hein, les 3 000 milliards de la dette française, quand elle était à zéro quelque chose, ça coûtait quand même 20 ou 30 milliards par an. Quand vous allez être à 2 ou 2,5%, et que ça va coûter 60, 70 milliards. Quand on sait que le budget de l'éducation nationale, j'ai pas les derniers chiffres, mais c'est de l'ordre de 45 à 50. D'accord? Ça veut dire que simplement le service de la dette en intérêt va représenter le plus gros poste du budget de la France. Donc, vous ne pouvez pas. Hein, Monsieur Macron, qui a utilisé notre chéquier dans le quoi qu'il en coûte, certes, il fallait aider, mais pas comme il l'a fait. Il a créé, et j'en ai parlé avec tous les grands cabinets d'audit qui sont en relation avec les PME, les ETI, etc. Mais il a créé un appel d'air de dingue qu'il a fait avec notre chéquier, cher ami.
Et maintenant, ce sont des faillites qui commencent à se multiplier, notamment chez les indépendants.
Mais bien sûr.
Raphaël Rossello, tous ces gens ont conscience de cela. Maintenant, il faut sauver leur peau. Ils disent, il faut l'acceptabilité. En réalité, je vais parler clairement, je pense, comment trouver l'acceptabilité dans l'opinion publique de descendre dans son développement. C'est très clair, c'est ça. Alors j'ai pensé à quelque chose en vous écoutant. On est un pays développé, où on a l'habitude de prendre une douche chaude, une douche bien chaude, chaque jour.
Ouais. Ouais.
Les pays sous-développés peuvent prendre une douche chaude une fois par semaine. Si on nous dit « c'est plus possible, maintenant il va falloir prendre une douche chaude une fois par semaine », les gens vont descendre dans la rue. Alors, est-ce que pour amener cette acceptabilité, moi j'ai l'idée suivante, je suis gouvernant, un peu Machiavel, je vais lancer des médecins, par exemple, expliquer à la télévision que la douche chaude chaque jour provoque des maladies et que c'est pas bon du tout pour la santé, qu'il faut limiter sa douche chaude. Puis au fur et à mesure du temps, ça va être accepté parce que ça va être rabâché à longueur de temps. Et on va progressivement baisser la température et accepter une douche chaude par semaine. Ou on va dire que la douche chaude, chaque jour, ça détruit la planète. Donc si les gens sont convaincus que ça détruit la planète, ils vont accepter de prendre une douche froide tous les jours. Et le voisin qui prendra une douche chaude chaque jour sera montré du doigt et dénoncé. Est-ce que finalement, des récits peuvent servir à accompagner l'acceptabilité des classements?
Alors, on touche, et vous savez, le problème auquel j'ai été confronté, je vais répondre à votre question, mais en fait, on a été confronté, je dis on, c'est vous, c'est moi, c'est mes collaborateurs qui ont entre 25 ans pour les plus jeunes et 70 pour les plus âgés. On a parlé de la financiarisation du monde. Moi, je dirais que nous sommes rentrés dans la mathématisation du monde. C'est-à-dire que les dirigeants des 30 à 40 dernières années ont été persuadés que la gestion, entre guillemets, rationnelle des hommes permettrait de se protéger des aléas. C'est cette conviction de dire que l'on peut... que les algorithmes sont d'une telle puissance et les outils de calcul des algorithmes sont d'une telle puissance que nous allons arriver à gérer les êtres humains. Bon. En fait, on oublie que la loi des statistiques marche sur certains cycles pendant des temps bien limités et dans des conditions bien limitées, mais que la somme des individus, même si, alors là, je fais un peu du conspirationnisme, on a tendance à nous emmener dans un menu où je n'ai le choix qu'entre un certain nombre d'options prédéterminées. Mais si on met ça de côté, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. Alors pourquoi je dis ça? C'est que n'ayant pas réussi à dire le premier, parce qu'en fait c'était ça l'idée, c'est que normalement un Jacques Chirac et ses successeurs ou Hollande ou Sarko auraient dû lui être impopulaire en disant chers Français, chères Françaises, voilà les faits, c'est que on vous annonce 2% de croissance. Mais pour générer 2% de croissance, que ce soit moi, mon confrère britannique ou américain, ben il faut que j'augmente ma dette publique de 4%. Bon. Donc un enfant de 4 ans pourrait comprendre que ça ne peut pas durer. Donc, et je parle même pas de licenciement, de fonctionnaires. Non, je dis simplement, je présenterai, politique très, très germanique, hein, très rhénane, je présenterai un budget en équilibre. Bien. Auquel cas, on aurait été en récession consciente, organisée, vous voyez ce que je veux dire, accompagnée. Bien sûr, il fallait que ça se fasse dans le cadre européen, nanana, on ne va pas refaire l'histoire, on ne l'a pas fait. Donc maintenant, l'atterrissage va être obligatoirement plus violent qu'il n'aurait pu l'être, puisqu'on a accumulé 3 000 milliards, on a accumulé des habitudes qui ne sont plus, etc. Je reviens à votre douche. Moi, je pense qu'il y a deux façons d'apaiser, je veux dire, ce que je vais vous dire n'est pas sordide.
La colère sociale.
Oui. Comment on apaise la colère sociale? On l'apaise en lui disant ben, qu'on va quand même pouvoir conserver non plus peut-être une douche chaude tous les jours, mais tous les deux jours. Bien. Et que ça râle, mais on a encore. Bien. Par contre, c'est de dire que l'on prend des mesures, alors on va dire que c'est populiste, que ça ne sert à rien, etc. Mais par lesquelles l'ultra-richesse que l'on voit vous savez, il y a un truc que je vois à la sortie des villes moyennes en France. Quand vous regardez les concessions automobiles et que vous regardez la beauté, la taille, etc., de celui qui vend des voitures de luxe. Bon. Quand vous êtes avec la difficulté d'entretenir votre Mégane, qui est un outil de vie impératif, indispensable, et que on vous dit ah ben non seulement vous allez payer plus cher votre essence, mais en fait on ne fait rien pour que les mecs qui sont au bout de la route continuent de vendre des Ferrari, des Porsche, des quoi que ce soit. Bien. Je pense, puisque vous avez utilisé le terme de Machiavel, il y a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il faut montrer que vous n'allez pas être le seul à subir ça, et que celui qui, alors est-ce qu'il l'a vécu à son détriment, j'en sais rien, mais celui qui a bénéficié à plein de cet effet richesse tiré patrimoine, lui va beaucoup moins gagner qu'il ne l'a fait historiquement. Il faut impérativement que nos gouvernements disent, bah écoutez,
il va partir.
Oui, mais il faut. Oui, mais il va partir. Attention, il va partir en sachant que j'étais à Monaco jeudi dernier à voir un entrepreneur qui est un vrai entrepreneur local, hein, bon, et qui, bon, lui, sa famille, etc. Ils vivent depuis 17 ans maintenant à Monaco, et il m'a expliqué le système fiscal monégasque qui est effectivement redoutable. Bien. L'avantage. Mais en fait, il est également à Monaco, comme il pourrait l'être à Vaduz ou au Luxembourg, etc., pour des raisons de paix sociale. C'est vrai que quand on se trouve dans les rues de Monaco, on n'a pas un sentiment d'insécurité. C'est clair. D'accord. Mais ceux qui risquent de partir, ils risquent de partir comment? Si, imaginez, d'ailleurs ils sont déjà partis, hein, tous ceux qui en gros, mais je prends le cas d'un homme redoutable qui s'appelle Bernard Arnault et qui a fait un truc absolument incroyable. Bon. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a eu ce génie qu'un de mes analystes chez Pinaton il y a 30 ans avait compris, c'est que l'homme va s'identifier avec ses marques. Sa personnalité sera les marques qu'il va arborer, lui, sa maîtresse ou sa femme. Bien. Donc, mais pourquoi ça a marché? Ça a marché parce que pendant ces 35 ans, on a créé une survaleur dans des proportions phénoménales. Enfin, je veux dire, c'est l'ampleur du phénomène, moi, qui me sidère. Hein, les phénomènes de bulles qui faisaient 20%, 30%, 40% de plus, on va dire qu'une loi normale. Bon, d'accord. Mais là, on est à 300, 400, 500, 600% au-dessus d'une quelconque normalité. Vous le savez en tant que boursier, Pour moi, la normalité, c'est quelle est l'actualisation du cash que je peux faire avec une prime raisonnable sur les 10 ans qui viennent. Ben, par rapport à ça, vous prenez Tesla, vous êtes encore, alors qu'ils ont perdu 40%, vous êtes encore à 500 ou 600% au-dessus de cette normalité. Bon, donc, en fait, il faut que les gouvernants aident, parce que je viens de faire mon chèque aux petites sœurs des pauvres, ok, mais également disent, je vais aller chercher un peu d'argent. Et là, je vais pas le dire, mais moi, je sais très très bien où il y a des poches avec. Je dis ça parce qu'il m'arrive de m'entretenir avec Arnaud Montebourg sur la problématique justement de la réindustrialisation de la France. Et je lui dis, mais Arnaud, il faut faire en sorte que le coût du capital pour des entreprises matures, hein, dans la mécanique, dans la chimie, dans l'alimentaire, etc., ne soit pas à 12 ou 15%, mais soit à 6 ou 7%, parce qu'à 15%, ils n'y arrivent pas, les mecs. Donc, tu peux pas réindustrialiser si tu ne trouves pas, etc. Or, quand on s'adresse à la BPI pour ça, on se fait gifler, hein, en disant, bah oui, mais ça, on peut pas le faire parce que Bruxelles va nous retoquer en disant qu'on subventionne des activités. Enfin, bref, on se mord la queue parce qu'effectivement, Bruxelles, c'est l'émanation du néolibéralisme mondialisé, etc. On le sait. Mais donc, plutôt que de laisser des populistes incultes s'emparer de la peur ou de l'incertitude, faisons un populisme, je dirais, éclairé. En fait, c'est l'impôt sur la fortune, quoi. Je veux dire, mais c'est un tel symbole. Là, je parle de la France, hein. Je parle de la France. C'est un tel symbole. Comment voulez-vous demander? Parce que moi, j'en connais des patrons qui, autour de moi, disent, ah, effectivement, dans la crise de la grève, qu'est-ce qui a mis vraiment le feu aux poudres? C'est que le patron de Total se soit augmenté de je ne sais pas combien au moment où le français moyen avait du mal à remplir son truc. C'est con ce que je veux dire.
Oui, mais c'est logique. Merci, voilà. Raphaël Rossello. Le livre s'appelle Demain, la fin de l'insouciance. C'est publié chez Mareuil Édition. Vous avez été professeur d'économie, banquier, vous êtes banquier.
Toujours.
Vous êtes aussi impliqué dans la vie publique. Maintenant, je ne trahis pas de secret, ouais, puisque vous l'avez dit dans l'entretien. Hein, vous êtes proche d'Arnaud Montebourg, voilà.
Absolument.
Donc,
absolument.
Voilà. Et vous travaillez sur cette question de la réindustrialisation de la France. C'est chez Mareuil Édition, le livre de Raphaël Rossello, Demain. Merci.
Non, c'est moi. Merci beaucoup.